durant ma carrière d'athlète, j'avais pas ce souci ou ce tracas-là à me demander, surtout vers la deuxième portion de ma carrière, à me demander qu'est-ce que je vais faire après et est-ce que je vais finir par trouver quelque chose qui m'allume autant que ce que je fais en ce moment en tant que skieur de fond, en tant qu'athlète olympique, etc. Puis je pense que ça a contribué à ma paix d'esprit parce que justement, je me suis jeté à 100% dans une nouvelle carrière, une nouvelle profession très rapidement après la première retraite.
Chaque année, l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de La Personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue. Merci d'être à l'écoute du balado Les Remarquables de l'Université Laval. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique, et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Alex Harvey, lauréat du prix Jeune Diplômé 2024. Avant de commencer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de son parcours unique et inspirant. Avocat spécialisé en droit commercial au sein du cabinet BCF Avocat d'affaires, Alex Harvey se démarque par son leadership, son dévouement et son éthique professionnelle irréprochable. Bien connu du public pour ses exploits en ski de fond sur la scène internationale, Alex Harvey est le fondeur canadien le plus décoré de l'histoire en dehors des Jeux olympiques avec 5 médailles aux championnats du monde de la FIS et pas moins de 20 podiums de la Coupe du monde à son palmarès. Il a été décoré de la Croix du service méritoire par la gouverneure générale du Canada en 2019. Il est engagé au sein de sa communauté, il incarne l'excellence et j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Alex Harvey, bonjour!
Bonjour, Monsieur Sirois. Merci de me recevoir sur le balado.
En tant que grand amateur de sport, je suis très heureux de discuter avec vous aujourd'hui. D'abord, j'aimerais préciser que nous avons convenu avant l'entretien de nous nommer par notre prénom. Alors, Alex, laissez-moi vous féliciter. Vous êtes lauréat du prix Jeune Diplômé de l'Université Laval 2024. Pour la petite histoire, vous et votre père, Pierre Harvey, êtes le premier duo père-fils à recevoir le prix Jeune Diplômé. Comment est-ce que vous accueillez cette belle reconnaissance de votre université?
C'est très, très flatteur, c'est clair. Puis le fait d'être le premier duo avec mon père de recevoir ce lauréat-là, c'est certain que ça ajoute à la flatterie, si on veut. Je suis très reconnaissant de ce prix-là. En même temps, tu sais, c'est l'université, pour moi, ça a contribué, je pense, autant dans mon après-carrière, mais ce que les gens suspectent peut-être un peu moins, c'est que ça a contribué durant ma carrière également. Et je sais que ça a été le cas pour mon père. C'est des valeurs qui ont été véhiculées dans notre famille. Autant ma mère, mon père, les études, c'était très important que ce soit jumelé là, à notre parcours sportif. Donc, c'est bien de recevoir une reconnaissance comme ça.
Alex, pendant votre carrière de fondeur sur le circuit mondial, vous étiez étudiant à temps partiel en droit à l'Université Laval. Comment on arrive à négocier entre les compétitions, les études, les travaux d'équipe, le décalage horaire? Quels ont été les principaux défis de cette conciliation entre sport de niveau élite et études universitaires?
Je pense que le premier élément, c'est la communication. C'est un domaine que tu connais très bien, Jean-Sébastien, étant
absolument,
diplômé
oui.
en communication publique. Mais non, pour moi, ça, blague à part, là, c'était vraiment d'entretenir un bon canal de communication avec la faculté de droit, avec les professeurs ou les chargés de cours, également avec mes collègues de classe qui pouvaient à l'occasion prendre des notes de cours durant les cours que je manquais pour raison de cas d'entraînement de compétition. Également, évidemment, de communiquer avec les gens de mon équipe, mon entraîneur, les gens de la fédération pour qu'ils sachent que je continuais d'étudier. C'était important pour moi. Donc, c'était de prévoir à l'avance quel cours j'allais rater en raison de quel cas d'entraînement ou quelle compétition. Également, prévoir à l'avance les périodes d'examen. On avait pris une entente là, durant la majeure partie de ma carrière avec l'Université de Zurich en Suisse, ce qui me permettait de faire l'examen final de la session automne pratiquement là, à tous les ans, la même journée que mes collègues de classe à l'Université Laval à Québec, mais dans un fuseau horaire là, 6 heures plus tôt. C'est ça. Canal de communication planifié à l'avance, puis ça a bien fonctionné.
Vous m'aviez parlé dans un entretien précédent, Alex, que même le Code civil avait été modifié, je crois, pendant vos études en droit. Expliquez-moi un peu les défis que ça représentait pour vous.
Oui, c'est le Code de procédure civile. Là, je t'en
tiens. OK, de procédure civile,
non, c'est ça. Okay. C'est le Code de procédure civile. En fait, moi, les cours de procédure que j'ai fait, c'était sous l'ancien Code. Et en 2016, là, le nouveau Code de procédure est entré en vigueur. Et donc, j'avais plus de cours au bac à faire sous ce nouveau code-là, mais c'est une fois que je suis entré au barreau, il y a quand même une période de formation au barreau. Ensuite, il y a les fameux examens du barreau dont les taux d'échec sont quand même ahurissants. Donc, c'est plus au niveau du barreau où ça a été une embûche pour moi, mais certainement une source de stress, puis je dirais même jusqu'à l'angoisse au début, là, c'est comme une grosse bête, le barreau, surtout que le bloc procédure civile épreuve est le premier bloc du barreau, mais je me suis bien attaqué à réviser le nouveau Code de procédure civile, surtout me coller aux termes qui sont utilisés. Il y a plusieurs définitions qui ont été modifiées. Puis au final, tout s'est bien passé, mais ça a été une petite période un peu stressante là, pour commencer de barreau.
Certainement, on peut comprendre. Le sport de haut niveau nécessite de la discipline, des entraînements rigoureux, un certain niveau d'autonomie. Quels sont les outils et les approches que vous avez développés en tant qu'athlète et qui vous servent aujourd'hui dans votre pratique du droit et dans votre vie de tous les jours comme père de famille, par exemple?
Oui, bien, j'en ai parlé un petit peu sur la manière que je procédais pour pouvoir continuer mes études. Donc, planifier à l'avance, puis la communication, c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui, c'est clair. Mm-hmm. Mais sinon, en allant un peu plus loin, bien, tout ce qui est rigueur, persévérance, c'est pas se laisser abattre par une petite contre-performance ou par des embûches qui se placent sur notre parcours, mais plutôt développer un plan pour s'attaquer à ces embûches-là. Mm-hmm. Et puis également, ben moi, pour faciliter de surmonter justement ces obstacles-là, ben je me fixais des objectifs à court, moyen, long terme, donc divers objectifs qui me permettaient un peu de justement persévérer et de croire en quelque chose de bien qui allait découler du fait d'avoir à surmonter cette fameuse embûche-là qui se tient là devant nous en ce moment. Donc, c'est des leçons qui me servent encore aujourd'hui. Puis également, bien, le travail d'équipe, mm-hmm. Malgré le fait que je faisais un sport individuel, j'avais une très grande équipe autour de moi qui m'accompagnait. J'avais des coéquipiers, les entraîneurs, massothérapeutes, physiothérapeutes, l'équipe médicale, les techniciens farteurs qui prenaient soin de l'équipement. Donc, une très grosse équipe et quand même des parallèles à tirer avec le monde du droit des affaires où on est derrière nos écrans à travailler dans diverses conventions. Donc, de manière individuelle, mais il faut quand même se rabattre sur notre équipe pour certaines questions spécifiques qui sont hors de notre champ d'expertise. Mm-hmm. Donc, il y a quand même des parallèles à tirer aussi là, entre mon ancienne carrière et ma nouvelle.
Ben, continuons dans les parallèles. On associe souvent le milieu du droit et le milieu sportif à la notion de performance. Quel rapport entretenez-vous avec la performance, Alex? Est-ce que l'esprit de compétition et le dépassement sont toujours des moteurs importants pour vous?
Bien, le dépassement, oui. Ensuite, la compétition, autant dans ma vie personnelle, si on veut, tu sais, dans mon sport, ça a vraiment été laissé de côté. Je fais encore du sport aujourd'hui, pratiquement tous les jours, mais vraiment pour mon plaisir, pour passer du temps de qualité avec des amis, avec les membres de ma famille, avec ma conjointe notamment. Mm-hmm. Donc, le sport devient presque un échappatoire soit du stress quotidien au travail ou la fin de semaine. Ben, c'est juste de passer, c'est ça, du temps de qualité, puis être en santé. Mm-hmm. Donc, le côté compétitif est vraiment laissé de côté pour le sport. Ensuite, ben dans mon emploi, dans mon travail en tant qu'avocat, c'est sûr que il y a un aspect compétitif qui revient. Par contre, faut pas tomber dans le piège, je crois, parce que maintenant, à titre d'avocat, je représente les intérêts de mes clients ou des clients du cabinet et non pas mes intérêts à moi. Donc, faut éviter d'essayer de se prouver soi-même pour dire « Ah, ben j'avais raison sur ce point-là », parce que je pense que parfois, il y a certains avocats qui parce qu'ils ont sont très fiers de leur travail et tout, ils veulent se prouver eux-mêmes au détriment de l'intérêt du client, surtout dans des périodes de négociation. Il faut savoir donner un petit peu de lest, si on veut, là, concéder certains points, mais pour vraiment être en mesure de gagner certains autres points qui sont cruciaux pour les intérêts de notre client. Donc, c'est dans ce côté-là où je demeure compétitif dans mon travail professionnel maintenant, mais avec un angle assez différent. Donc, je travaille pour les autres et non pas pour moi-même. Mais je pense qu'à la base, tu sais, c'est... Je ne sais pas si on peut dire que c'est génétique, mais c'est difficile de sortir le côté compétitif. On peut me retirer du circuit de la Coupe du monde et de la compétition, mais c'est difficile quand même de sortir le côté compétitif de Alex Harvey.
Là. Je comprends très bien. Le sport est un domaine où les limites sont constamment repoussées, Alex. Tristement, le dopage est parfois la voie empruntée par les athlètes et même certains pays pour atteindre de nouveaux sommets. On l'a vu au cours des dernières années. Vous avez pris la parole à maintes reprises pour dénoncer le dopage dans le sport. Est-ce que vous avez l'impression que le Comité international olympique fait tout en son pouvoir pour enrayer ce fléau qu'est le dopage?
Oui, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de dopage durant ma carrière parce que malheureusement, mon sport, le ski de fond, est un sport où ça a été très présent, autant à l'époque de mon père, à mon époque, à moi, et je pense que ça le demeure encore aujourd'hui, malheureusement. Donc moi, j'ai jamais hésité à dénoncer ça, à prendre la parole, puis même certains autres athlètes qui avaient peut-être moins, je dirais pas le courage, mais moins le goût de, parce qu'on dépense un petit peu d'énergie à faire ça, d'énergie qu'on met pas dans le sport, mais qui venaient me parler après les entrevues pour me féliciter puis dire, hey, on est content que t'aies un peu notre porte-voix pour ça. Nous, ou parfois c'est leur fédération qui leur permettait pas de le faire. Moi, j'ai eu des bons commentaires, là, de collègues ou compétiteurs même, mais qui venaient me donner une petite tape dans le dos pour ça. Puis pour répondre à la question de savoir si je crois que le CIO en fait assez pour enrayer le fléau, ben à mon sens, non, parce que malheureusement, de ce qu'on voit dans les grandes fédérations où le problème persiste, je pense notamment là, à la Russie avec tout ce qu'on a pu apprendre, le scandale
du dopage systémique,
Jeux de Sochi, systémique, c'est qu'en ce moment, de la manière que ça fonctionne, ce sont les athlètes qui sont pénalisés, puis là, les sanctions sont diverses, de diverses durées, mais la fédération et le système n'est jamais pénalisée, outre qu'elle va perdre quelques athlètes. Mais en ce qui te font dans mon sport, un pays comme la Russie, ils ont une usine à athlètes. Là, ils en ont des centaines qui attendent derrière pour remplacer ceux qui vont peut-être se faire pincer. Donc, je pense pas que c'est le combat livré sur le bon terrain. C'est pas les athlètes qui devraient être pénalisés, mais c'est surtout la fédération, les entraîneurs, les gens qui supportent ce système-là depuis des décennies et des décennies, qui font en sorte que les noms sur la liste de résultats changent, mais que le système et la tricherie demeurent inchangés. Donc, je pense qu'il faudrait revoir un peu les pénalités, les sanctions qui sont données. Mes derniers Jeux olympiques, moi, en 2018, en Corée du Sud, les athlètes russes couraient sous un drapeau indépendant ou sous le drapeau du Comité olympique international. Au final, que les gens à côté de leur nom sur la liste de résultats, au lieu que ça dise Russie, ça dise athlète de Russie. Ouais. Eux, quand ils sont retournés au pays, ça a été innovation nationale. Ils ont été reçus par le président Vladimir Poutine. Ils se font remettre, tous les médaillés se font remettre des VUS BMW. Ils sont membres, pour la plupart, de l'armée. Ils gagnent en grade dans l'armée suite à leurs résultats aux Jeux olympiques. Donc, bon, est-ce que la question se pose à savoir si ça a vraiment changé quelque chose, le fait de bannir la Russie des Jeux de 2018, mais de permettre aux athlètes de venir? Moi, je pense que ça n'a pas changé grand-chose.
On comprend que le problème est plus au niveau des structures et des organisations derrière les athlètes, finalement, que des athlètes eux-mêmes. Et justement, vous parliez du fait qu'il y avait du dopage à l'époque de votre père, du dopage pendant que vous étiez actif sur la scène internationale. Et y a-t-il eu une évolution au fil du temps, selon vous, ou pas tellement?
Oui, je pense qu'il y a quand même eu une bonne évolution. Par contre, ce qui arrive, c'est que la course au combat antidopage suit toujours un ou deux pas derrière la course au dopage en tant que tel. Donc, il y a eu une évolution, certes, depuis mon père, mais je pense qu'on tire encore de la patte. Mais comme exemple concret, maintenant, il faut donner à... quand on est un athlète amateur là, d'un certain niveau, il faut indiquer sur une base de données là, centralisée où on se trouve à tout moment de la journée pour permettre à des gens de venir faire des tests inopinés, là, des tests non annoncés.
Mm-hmm.
Nous, au Canada, ben, c'est la Fédération canadienne qui vient, ou moi, ben, je vais parler au passé parce que je suis à la retraite, là, qui venait me tester.
Mm-hmm.
On sait qu'il y a certains pays qui mènent ce combat-là de la même manière que le Canada, donc les fédérations testent leurs propres athlètes, mais il y a d'autres pays où la fédération ne va pas tester l'athlète, donc c'est uniquement lorsque c'est la fédération internationale qui va venir tester l'athlète où l'athlète est effectivement contrôlé. Et ensuite, ben, on entend entre les branches que certains athlètes russes, ben, lorsqu'ils indiquaient leurs données de géolocalisation, ben, ils disent qu'ils font un camp d'entraînement en Tchétchénie.
Mm-hmm.
Donc là, la question, c'est au niveau pragmatique, puis dans les faits, la Fédération internationale de ski ne va pas envoyer des agents de dopage, des agents de contrôle antidopage dans des endroits qui posent un risque pour leur propre vie. Donc, il y a toujours moyen de contrôler le système, malheureusement, mais ça serait faux de dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration.
Parfait. Alex, vous êtes engagé au sein de votre communauté, vous donnez des conférences, vous avez été porte-parole pour plusieurs causes, le diplôme avant la médaille, l'aura les merveilles notamment. Vous êtes également impliqué au sein du groupe de droit du sport formé par Méritas, un réseau mondial qui réunit des cabinets d'avocats indépendants de premier plan à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ces engagements représentent pour vous?
Ce type d'engagement-là, c'est une manière de redonner à ma communauté.
Mm-hmm.
Je parle plus là au niveau des conférences et des causes caritatives là, que je parraine.
Mm-hmm.
Mais également, même si de l'extérieur, ça semble être une relation unilatérale où c'est moi qui donne, moi, je ressens vraiment que c'est donnant-donnant parce que c'est très satisfaisant au niveau personnel. Ça nourrit l'âme de voir le sourire de jeunes que tu viens aider,
mm-hmm.
Que ce soit par le fait de donner une conférence, de supporter une levée de fonds pour une cause qui te tient à cœur. Donc, moi, ça nourrit mon âme également, mais ça reste que c'est une manière de redonner. Et également, ben, pour mon côté, le volet professionnel maintenant, la pratique du droit, ben, c'est que je peux amener à des collègues de mon cabinet mon background sportif. Vous parlez de Méritas, du groupe droit du sport, ben, c'est ça, c'est d'amener un petit peu l'expérience que j'ai eue en tant qu'athlète et jumeler ça avec la nouvelle expérience que j'ai en tant qu'avocat.
Je ne peux conclure l'entretien, Alex, sans vous parler de vos études en droit à l'Université Laval. Comment la formation universitaire que vous avez reçue ici, à la Faculté de droit, a-t-elle eu un impact dans votre vie?
Bien, c'est clair que la formation que j'ai eue à la Faculté de droit de l'Université Laval a eu un grand impact dans ma vie, surtout en ce moment parce que je réalise une carrière qui me stimule à tous les jours, qui fait en sorte que lorsque je me réveille le matin, parfois très tôt pour faire quelques heures dans un dossier avant d'aller réveiller ma fille et l'amener à la garderie, je suis excité par ce que je fais, par la profession que j'exerce, mais également, c'est que durant ma carrière d'athlète, j'avais pas ce souci ou ce tracas-là à me demander, surtout vers la deuxième portion de ma carrière, à me demander qu'est-ce que je vais faire après,
mm-hmm.
et est-ce que je vais finir par trouver quelque chose qui m'allume autant que ce que je fais en ce moment en tant que skieur de fond, en tant qu'athlète olympique, etc.
Mm-hmm.
Donc ça, si je compare avec certains de mes anciens coéquipiers qui sont encore aujourd'hui de très bons amis à moi, c'est certain que c'est une grosse différence. Puis je pense que ça a contribué à ma paix d'esprit mm-hmm. durant ma carrière. Et également, ça a grandement facilité la transition, la retraite d'un athlète amateur. On en parle de plus en plus. Puis il y a beaucoup d'athlètes qui sombrent un petit peu dans la dépression suite à leur retraite parce que justement, ils se trouvent devant rien ou du moins rien qui les passionne autant que ce qu'ils faisaient par le passé. Donc moi, j'ai pu éviter cette période-là parce que justement, je me suis jeté à 100% dans une nouvelle carrière, une nouvelle profession très rapidement après ma première retraite. Donc ça fait particulier de dire avant même l'âge de 35 ans, parler de ma retraite, mais
ouais.
C'est vrai, j'ai eu une retraite vers l'âge de 30 ans, mais ça n'a pas été trop difficile pour moi. J'ai pu rebondir assez facilement vers une nouvelle carrière, une deuxième carrière mm-hmm. qui me stimulait et qui me stimule encore énormément aujourd'hui.
Alex, ce fut un honneur de discuter avec vous aujourd'hui. Vous nous avez rendu fiers à travers vos exploits sportifs et vous continuez de le faire à travers votre carrière en droit. Un grand merci du temps que vous m'avez consacré aujourd'hui et encore une fois, félicitations pour le prix Jeune Diplômé que vous venez de recevoir.
Merci beaucoup et merci de l'invitation.
Plaisir. Cet entretien avec Alex Harvey, lauréat du prix Jeune Diplômé, a été réalisé le 29 janvier 2024 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.